14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Alexis, qui n'a pas encore 17 ans, voulait tuer son père. C'était une idée qu'il avait déjà repoussée à plusieurs reprises. Et puis l'autre soir, cet adolescent, qui ne supportait plus être rudoyé, voire brutalisé, est passé à l'acte. Alexis a épargné sa demi-sœur, qui a 3 ans, parce qu'il l'aimait beaucoup.
Bonjour. Un adolescent de 16 ans et demi peut-il anéantir 6 personnes en 10 minutes, laissant derrière lui une scène de crime qui a tout d'une exécution professionnelle? Cette question demeure sans réponse depuis 25 ans et la découverte en 1995 de ce massacre d'une famille russe et leurs amis dans une villa de Louveciennes, près de Paris. Le jeune Alexis aurait abattu tout le monde, thèse retenue par la justice mais qui va susciter la perplexité. Une autre explication va alors surgir pour expliquer cette tragédie dit à huis clos, celle d'une vengeance venue de Moscou, un carnage orchestré par la mafia russe qui aurait laissé le fils de la famille Polevoy porter tout seul le chapeau de ses crimes. Alexis est-il le meurtrier de sang-froid décrit par les enquêteurs ou a-t-il été manipulé pour apparaître comme le parfait coupable? L'affaire est-elle vraiment terminée? Autant de questions que nous allons poser au cours de cette heure à nos invités.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, les mystères de la villa de Louveciennes, histoire d'un carnage à huis clos qui commence une nuit d'hiver 1995 dans une banlieue cossue de l'ouest parisien. Il est 3h du matin, ce lundi 27 février 1995, quand le commissariat de Marly-le-Roi, dans les Yvelines, reçoit un appel d'urgence. Au bout du fil, la voix blanche d'un adolescent qui prononce ces mots « Venez vite, ils ont tué toute ma famille ». L'interlocuteur a rapidement décliné son identité, Alexis Polevoy. Il a donné une adresse, une villa du chemin des Graissés à Louveciennes. La commune, limitrophe, est à seulement 5 minutes du commissariat. La patrouille de police est aussitôt sur place. Elle s'arrête devant un pavillon de style anglo-normand, adossé à la forêt de Marly. Les lumières du rez-de-chaussée sont allumées. Sur le pas de la porte, Alexis, 16 ans et demi, accueille les fonctionnaires. C'est lui qui a téléphoné. Il est livide, tremblant. Ses propos sont confus. Il a consommé beaucoup d'alcool. Les policiers, bientôt rejoints par leurs collègues de la police judiciaire de Versailles, pénètrent dans la villa silencieuse. Alexis les guide vers le salon. Il y a là, en travers d'un petit couloir, Eugène Polevoy, le père de famille. Il gît, face contre terre, sur un tapis qu'il avait ramené d'Asie centrale. Une main tendue vers son bureau où il tentait peut-être de se réfugier. Le légiste compte 3 orifices de balle. Dans le salon, il y a son épouse Ludmila, belle-mère d'Alexis. Elle aussi a tenté d'échapper à l'agresseur. Elle avait empoigné un tabouret avant de s'écrouler. Un couple d'amis de la famille, les Russes Slava et Olga Vyachlav, ont été tués au même endroit alors qu'ils prenaient un verre. Alexis désigne le premier étage. Dans une chambre, les policiers aperçoivent, écroulés derrière le fauteuil où ils se cachaient, Fedor, le père de Ludmila et grand-père par alliance d'Alexis. Son épouse Zelna est retrouvée au rez-de-chaussée, pieds nus, vêtue de sa robe de chambre à petit cœur. 6 morts et 2 rescapés. La petite Nathalie, tout d'abord 3 ans, demi-sœur d'Alexis, retrouvée dans une chambre à l'étage. Elle dormait à poing fermé dans son lit à barreaux. Quelqu'un avait jeté sur elle une couverture. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle n'a rien vu, rien entendu. Et puis Alexis, bien sûr, un garçon qui va fêter ses 17 ans. Dans un mois, il est groggy, conduit dans les locaux de la PJ de Versailles. Il raconte qu'il était absent de la maison quand l'attaque a eu lieu. C'est en rentrant vers 3 heures qu'il a découvert la tuerie. Il a aussitôt donné l'alerte. Les policiers ont du mal à le croire. Il est pressé de questions. Il évoque maladroitement de mystérieux tueurs ou de possibles rôdeurs. Mais les indices relevés sont contre lui. Des maillons cassés de son bracelet montre sont retrouvés devant la porte du premier étage, la chambre du grand-père. Il a des traces de poudre sur les mains et ce sont ses empreintes qui sont sur les 3 armes à feu. Des armes que détonnait son père, une réplique de fusil d'assaut Kalachnikov, un pistolet custom à un coup et une unique, une carabine automatique 22 longs rifles. Au total, 16 douilles percutées ont été retrouvées. Une seule n'a pas touché sa cible. Il avoue avoir tué son père car il le traitait comme un chien. Idem pour sa belle-mère et les autres victimes qui l'humiliaient. Il a épargné sa petite sœur car il l'adore. Mardi 28 février, après 24 heures de garde à vue et alors que les journaux évoquent déjà l'ombre de la mafia russe, le procureur de la République adjoint de Versailles, Hervé Garrigue, rencontre Alexis Polevoy. Le magistrat indique que l'adolescent avait décidé de longue date de liquider son père. Il n'avait eu que peu d'occasions de se retrouver avec lui. Polevoy, businessman travaillant dans l'import-export, étant toujours par mont et par veaux. C'est en fin de soirée, vers 22h, que le jeune homme aurait décidé de passer à l'action. Il dit avoir agi seul. Il est épuisé. Dans l'après-midi, Alexis est déféré au parquet de Versailles. La juge Catherine France Rechter le met en examen pour assassinat, celui de son père, et 5 meurtres. Il est écroué. Le parquet précise que l'intéressé bénéficie de l'excuse de minorité et qu'il encourt une peine de 20 ans de prison. Alors on est là avec une histoire où il n'y a finalement pas beaucoup a priori de mystère. Un adolescent qui est à bout de force et qui aurait eu comme cela un coup de folie. On a en ligne maître Olivier Combes. Bonjour maître.
Bonjour monsieur Richard.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de l'heure du crime. Vous avez été l'un des avocats d'Alexis Polevoy. On revient avec vous tout de suite sur cette épouvantable scène de crime, 6 morts dans cette villa. Qu'est-ce qu'il dit votre client Alexis Polevoy lors des premiers interrogatoires ?
Sa première version, c'est celle qu'il a donnée au service de police. La première chose qu'il a dite quand il a prévenu les policiers, quand il a fait cet appel, ils ont tué toute ma famille. Donc c'est quand même la première version. Je sais qu'après, et on sait qu'il va s'accuser, mais ça, il va s'accuser au bout de quelques heures, après la première nuit passée en garde à vue, le lendemain, il va finalement dire que c'est lui qui a commis les meurtres. Mais en réalité, sa première phrase dans cette histoire, il faut quand même pas l'oublier, c'est l'appel au 17, et c'est « ils ont tué toute ma famille ».
Alexis, avoue donc ces crimes. C'est un adolescent qui, on peut le dire, est bien intégré.
Parfaitement intégré, c'est un adolescent. Alors moi, ce qui m'a surpris d'ailleurs la première fois que je l'ai vu, c'est que il faut pas perdre de vue que c'est un adolescent. Il a 16 ans et demi, il n'a pas encore 17 ans. Mais c'est en plus un adolescent visage d'enfant. Il est un peu poupin, il est un peu rond. Et ses copains vont le décrire comme quelqu'un d'un peu pâteau, hein, un peu gauche, un peu maladroit. Et c'est ce garçon qui va s'accuser de ce sextuple meurtre. Alors on sait bien que le criminel ressemble pas toujours à son crime, mais il est vrai que c'est une des choses qui m'a frappé moi dès que je l'ai vu, c'est que et qui me frappera encore plus quand j'aurai connaissance des éléments du dossier, à savoir des coups de feu qui ont tous abouti, le coup de grâce derrière la nuque, et l'utilisation de 3 armes qui a fait mouche à chaque fois.
Ah oui, ces armes qui effectivement ont frappé leur cible à chaque fois. On a dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui Michel Marie, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi notre invitation. Vous êtes grand reporter au Nouveau Détective. Vous avez couvert cette affaire que vous connaissez parfaitement. Michel Marie, première question, qui est cette famille Polevoy, qu'on retrouve à moitié décimé, uniquement des Russes hein, dans cette maison.
La famille Polevoy, c'est une famille russe, une famille reconstituée. Eugène avait divorcé une dizaine d'années plus tôt de Raïssa, donc la maman d'Alexis.
Qui est restée en Russie.
Hein, qui est restée en Russie, elle est bibliothécaire à Moscou, pour refaire sa vie avec Ludmila. Et il avait donc une petite fille avec sa nouvelle épouse. Il s'était installé en France dans les années 92, ou peut-être un petit peu avant, et son fils est venu le rejoindre, donc le fils, c'est Alexis.
C'est une famille discrète, hein, Michel-Marie, on peut le dire comme ça, hein. Ils ne font pas de bruit, on n'entend pas parler d'eux.
C'est une famille discrète.
Ni des voisins, voilà, c'est ça.
Ils vivent en communauté, les gens qui viennent chez eux sont des Russes.
C'est ça.
Des gens importants généralement. C'est un homme d'affaires, Eugène Polevoy. Il a des sociétés, de l'import-export. On ne sait pas très bien ce qu'il fabrique, mais en tout cas, il brasse beaucoup d'argent. La maison est. Je suis allé sur place le jour des faits, enfin le lendemain matin. C'est une imposante maison.
Oui.
Je crois que le loyer était de 22 000 francs à l'époque.
Qui payait rubis sur ongle d'ailleurs, avait dit le propriétaire. Alors il y a 6 morts dans cette maison, Michel Marie. C'est pas rien, 6 morts.
C'est
une tuerie, c'est rare à ce niveau-là. Pas une tuerie de masse, j'allais dire, mais c'est rare.
C'est extrêmement rare. C'était un fait divers qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. On avait trouvé la solution, en tout cas celle de l'époque, c'est-à-dire les aveux du fils, parce que le fils à la PJ de Versailles, détails avait avoué assez rapidement. Et après, effectivement, les choses se sont un petit peu compliquées dans ses explications. Mais pour en revenir à ce massacre, oui, c'est extrêmement rare. C'est toute une famille qui est décimée en 10 minutes.
Affaire rapidement éclaircie, donc, même si l'enquête est très loin d'être terminée. Le mobile, une haine contre le père de famille, suffit-il à expliquer une telle équipée meurtrière? Des ombres se cachent-elles derrière le jeune Alexis Polevoy? Le 11 avril 1995, moins de deux mois après la tuerie, Alexis est dans le cabinet de la juge Rechter à Versailles. 3 heures d'audition où il détaille la soirée du 26 février. Il détestait son père, Eugène Polevoy, qu'il décrit comme un homme porté sur la boisson, violent, humiliant. Le soir du drame, Eugène est rentré à la maison éméché. Il a frappé Alexis à coups de ceinturon. Il venait de lui interdire de revoir sa petite amie, Yana, la fille du directeur français de la compagnie russe d'aviation Aeroflot. Il lui reprochait ses mauvais résultats scolaires. Il lui avait repris la clé de son studio près du lycée privé L'Ermitage, à Maison Lafitte, confisquait sa carte de crédit avec laquelle il pouvait tirer jusqu'à 10 000 francs d'argent de poche par mois, une petite fortune à l'époque. Alexis s'est enfermé dans sa chambre, puis il a pris sa décision. Il a discrètement récupéré 3 armes de son père, un passionné de tir sportif qui a installé un stand dans le sous-sol de la villa. Il est sorti avec une carabine, il a tiré une première balle à travers la fenêtre de la terrasse et a blessé son père. Il est revenu dans la villa, puis l'a achevé avant que l'homme ne rejoigne le bureau où se trouvaient d'autres armes. Il a ensuite fait feu sur sa belle-mère, le couple d'amis, les grands-parents, avant d'abattre Zina, la grand-mère. Il l'a obligé à fouiller les poches d'Eugène Polevoy pour en tirer sa carte de crédit. L'adolescent n'a pas le permis, mais a pris la Rover de sa belle-mère pour rouler jusqu'à Paris. Il a bu du champagne dans un club privé près des Champs-Élysées, puis a entraîné une hôtesse, Béa, une brune aux yeux bleus, dans un hôtel. Il a payé avec la carte bancaire de son père et a rejoint la villa des Yvelines. 9 mois après les premiers aveux, 25 novembre 1995, Alexis Polevoy change subitement de version. Cette fois, il raconte avoir agi sous la menace et l'emprise d'un homme en noir. Il lui aurait ordonné le carnage, un individu qui portait une cagoule et parlait russe. Il cherchait un dossier rouge concernant une affaire financière à 30 millions de dollars. C'est lui qui a tué tout le monde, puis a demandé à Alexis de tirer une balle dans la tête de son père. Avant de partir, au volant d'une Renault Safra, l'homme aurait exigé du jeune garçon qu'il appelle la police et s'accuse des meurtres. Sans cela, il serait revenu tuer la petite sœur qu'il avait épargnée, mais aussi la mère biologique d'Alexis, Raïssa, une bibliothécaire à Moscou. La piste d'un tueur à gages envoyé par la mafia russe émerge à nouveau avec cette question. Pourquoi aucun des hommes abattus dans la soirée du 26 février n'a pas tenté de se défendre? Tous étaient formés au combat. En premier lieu, Slava, l'ami de la famille, un colosse, ex-officier du KGB, ancien para de l'armée rouge. Même le grand-père, Fédor, était un ex-officier de l'armée de l'air. Il était encore alerte et musclé, mais il n'a eu pour seule hâte que de se réfugier sous un fauteuil. Tous les tirs sont d'une précision parfaite. Une balle entre les deux yeux pour Ludmila, la belle-mère. Tous les témoins qui connaissent Alexis ne peuvent pas croire qu'il se soit subitement transformé en un tueur professionnel, manipulant 3 armes à la fois et abattant 6 personnes. 26 juillet 1996, lors de la reconstitution organisée par la juge d'instruction à l'abri des murs de la villa du chemin des Graissets, Alexis Polevoy maintient la version de l'homme en noir. Hypothèse qui ne tient pas aux yeux des policiers, même si le climat qui règne depuis le début de l'affaire autour de la villa de Louvciennes est pour le moins curieux. Au lendemain des faits, la villa, placée sous scellé, avait été visitée par des inconnus. Rien n'avait, semble-t-il, été dérobé. La police avait alors pensé à des photographes en quête de sensationnel. Le surlendemain, la maison était à nouveau visitée, mais cette fois, de nombreux placards avaient été ouverts. Et dans la cave, les bouteilles de vin déplacées une à une, comme si elles avaient pu cacher un message ou une indication. Michel Marie, vous êtes dans le studio avec nous de l'heure du crime depuis le début de cette émission. Je le disais, vous connaissez parfaitement cette histoire. Il y a ce revirement subi d'Alexis. C'est pas le premier en matière criminelle. Souvent, les accusés reviennent sur leur déclaration. Mais là, est-ce qu'on peut imaginer, et c'est tout de même troublant, que il soit seul dans cette tuerie? Que disent les policiers là-dessus? Parce que ça paraît incroyable.
Alors effectivement, c'est pas la première fois qu'on voit un revirement, un changement de version. Les affaires où les changements de version sont encore plus nombreux. Là, c'est un changement de version. Dans un premier temps, en garde à vue à la PJ de Versailles, il reconnaît les faits. Et 8 ou 9 mois plus tard, il se rétracte en disant que c'est un homme en noir, ce que vous venez d'expliquer absolument très bien. Il y a un stand de tir au sous-sol de la maison.
Ouais.
Alexis vivait avec son père depuis 2 ans environ dans cette maison. Et il semble que le père, Eugène, était un passionné de tir.
De tir sportif.
Et donc au point d'installer, parce qu'il en avait les moyens, un stand de tir dans la cave. Donc on peut imaginer qu'Alexis s'entraînait régulièrement lui aussi.
Ce que je veux dire, c'est, Michel, c'est que vous n'êtes pas surpris. Enfin, les policiers vous l'ont dit à l'époque, vous avez recueilli leurs témoignages. Ils ne sont pas surpris par le fait qu'il ait pu abattre comme ça 6 personnes avec cette précision. On est d'accord ?
On est d'accord. Les tirs sont extrêmement précis. Ça a été très vite. Peut-être a-t-il joué sur la surprise.
Oui.
Ces gens avaient peut-être un peu bu.
C'était la soirée.
La fin de soirée. Même s'ils étaient en train de boire de la tisane, mais ils n'avaient pas bu que de la tisane avant.
On peut mettre certaines choses dans la tisane.
Là, en l'occurrence, oui, les policiers se sont posé la question, mais ils ont en même temps répondu à cette question. Pour eux, dans le dossier d'instruction, Alexis a œuvré seul.
Et on va poser la question à Maître Olivier Combes, qui est également notre invité dans l'heure du crime et qui est au téléphone de l'heure du crime. Cette deuxième version, ce revirement, on a un peu du mal à y croire. Ça paraît insensé, non ?
Mais en fait, il va livrer une version qui paraît, prime abord, farfelue. C'est-à-dire, j'ai été menacé par un homme en noir cagoulé qui est arrivé et qui m'a intimé l'ordre de tuer mon père et ensuite d'exécuter les autres personnes présentes. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire puisque sinon il a dit qu'il tuerait ma mère et il tuerait ma sœur. Voilà. Et donc je me suis exécuté. Alors au début ça paraît effectivement un peu extraordinaire, mais sa version elle va prendre corps avec l'apprentissage qu'on va avoir de la personnalité de Gênes. Et surtout de ses affaires. Et
alors, Bert, quand même, il y a ses empreintes sur les armes, les empreintes d'Alexis.
Ce qui est vrai, mais il a jamais dit qu'il avait, les avait pas manipulées, les armes, de toute façon. C'était des armes qui étaient à disposition, elles étaient là. Elles étaient, et d'ailleurs, je crois qu'il avait fait du tir la veille ou l'avant-veille avec son père.
Que dit, Maître, encore une question, que dit la balistique ? Un tueur, 2, 3 tueurs, il y a des conclusions qui, je crois, dans les rapports, n'ont jamais été très claires.
Je sais qu'il y avait une incohérence dans l'expertise balistique. La précision, ça, on le sait, puisque tous les tirs ont été soit des tirs mortels, soit en tout cas ont atteint leur cible. Puisqu'on avait même évoqué, vous savez, ce qui avait été dit pour Kennedy, la théorie de la balle magique, c'est-à-dire une balle qui rentre, qui va traverser un corps, ressortir d'un autre côté, aller en blesser un autre. Voilà. Et les experts ont eu du mal, d'ailleurs, à expliquer à la cour d'assises comment les tirs en eux-mêmes ont été effectués. Voilà. Il y avait une vraie confusion et une vraie, également, zone d'ombre quant à l'exécution de ces tirs sur ces différentes personnes qui ne se sont pas rebellées et qui n'ont même pas cherché à s'enfuir.
Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, qui n'ont même pas cherché à s'enfuir. On a en ligne également Jean-Pierre Bouchard, psychologue dans l'heure du crime. Bonjour Jean-Pierre Bouchard.
Oui, bonjour.
Juste en quelques mots, et on va y revenir évidemment plus longuement avec vous, sur la psychologie possible d'Alexis, mais est-ce que déjà, selon vous, vu cette scène de crime, ce décor, est-ce qu'il est vraisemblable qu'un adolescent, 16 ans et demi, puisse comme ça abattre 6 personnes de sang-froid, j'ai envie de dire ?
Oui, alors je ne veux pas coller à l'affaire, mais moi j'ai vu plusieurs dizaines de parricides que j'ai examinés cliniquement, quelquefois expertisés même, et que j'ai suivis sur le long terme. On en trouve plusieurs types. Ce sont d'abord toujours des gens plutôt jeunes, mais ça c'est surtout lié à la coexistence des 2 générations. Pour tuer ses parents, il faut qu'ils soient encore vivants, donc c'est la première partie de la vie. Donc ce sont souvent des adolescents ou des adultes jeunes. Et après, on trouve 2 grands types de motivations. On trouve pas mal de malades mentaux, notamment de schizophrènes ou de paranoïaques qui délirent sur un ou les 2 parents. En général, c'est plus sur un parent que les 2 en même temps, mais ils peuvent les associer. Et ce sont des délires de préjudice ou de persécution ou de façon délirante. Ils pensent que ses parents leur en veulent, leur font du mal, etc. Mais... à un moment donné, ça devient insupportable et ils les éliminent.
Mais...
soit ils ne délirent pas et ils pensent à peu près la même chose, enfin ils vivent la même chose, c'est-à-dire que ses parents où un des parents aurait de très mauvaises relations donc avec le futur auteur. Et donc, c'est le règlement de compte qui intervient au bout d'un moment. Le plus souvent, il ne tue qu'un des deux parents ou les deux parents à la fois. Quelquefois, s'il y a des gens qui s'interposent, il les élimine aussi, mais simplement parce qu'il les gêne dans la commission des homicides. Et il y a eu de très rares cas de jeunes comme ça qui vont tuer plusieurs personnes à la suite. D'ailleurs, la même année, dans le Var, il y a eu une affaire comme ça, où il y a un jeune qui a tué plusieurs personnes après avoir tué un de ses parents. Donc en théorie, c'est possible.
En théorie, c'est possible et très rares cas, vous nous dites, Jean-Pierre Bouchard. Malgré les incohérences, la juge Rechter ne croit pas à la version de l'homme en noir, une rétractation classique destinée à fuir ses responsabilités. Les doutes vont persister, notamment à cause du parcours du père de famille, Eugène Polévoy.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
Je souhaite que durant le procès, enfin, les gens lisent le dossier, connaissent le dossier, la vérité se trouve dans le dossier et que Alexis sera non seulement libéré, mais innocenté.
Les policiers s'intéressent au premier mort de la tuerie, le père d'Alexis, Eugène Polévoy, 42 ans. Cet ancien apparatchik soviétique reconverti dans les affaires a fait fortune dans le commerce du bois. Il s'est installé en France en 1991 à Vichy tout d'abord, où sa personnalité et son train de vie ont attiré la curiosité des services de renseignement. Puis il a emménagé à Louveciennes où ce russe, patron de la Sofriex, une entreprise d'import-export, roule en Mercedes 600 et fréquente les meilleurs restaurants. Il s'est ensuite fait beaucoup plus discret. Quelques semaines avant d'être exécuté, en déplacement à Moscou, il a été attaqué sur la route de l'aéroport. Il était revenu en Russie pour régler un différend commercial et on lui a tiré dessus. Il était lui-même armé mais n'a pas eu le temps de riposter. Eugène Polévoy est rentré immédiatement en France. Depuis cet incident, il était toujours flanqué de l'ex-para, Vyacheslav, l'ami de la famille, qui a été aussi tué dans la villa. 15 jours avant le massacre, Polévoy a retiré 1 million de francs en espèces sur l'un de ses comptes bancaires. L'argent n'a jamais été retrouvé. Le 25 février, deux jours avant qu'il ne soit abattu chez lui, il confie à une relation d'affaires qu'il est racketté par la mafia russe. Eugène Polévoy explique qu'il s'est fait coincer un soir sur le bas-côté de la route dans les Yvelines par une voiture. Il a préféré ne pas rentrer chez lui et a dormi à l'hôtel, à Paris, à sa comptable. Il confie « Rien ne va plus, je suis foutu ». 8 décembre 1996, soit un an et 10 mois après la tuerie de Louveciennes, l'enquête s'enfonce dans le mystère russe. Dimitri Polévoy, le frère d'Eugène, est retrouvé mort, criblé de balles près de sa résidence à Vitebsk, en Biélorussie. Dimitri avait repris les affaires de son frère défunt. Il venait juste d'obtenir son visa pour la France et voulait témoigner auprès de la juge d'instruction. Il s'apprêtait même à donner une conférence de presse avant son départ pour Paris. Il n'en a pas eu le temps. De son côté, la mère d'Alexis, qui habite Moscou et ne croit pas à la culpabilité de son fils, indique avoir eu un rendez-vous avec le procureur général de Russie. La justice aurait établi un lien entre la mort récente de Dimitri Polévoy et le massacre de Louveciennes. Le procureur général assure qu'un dossier sera prochainement transmis à la juge française. Une pièce qui pourrait tout changer. L'un des avocats d'Alexis, Maître Bourdon, saisit cette opportunité. Il demande de nouvelles investigations à la juge, notamment l'examen de comptes bancaires au Luxembourg. Le 4 avril 1997, la cour d'appel de Versailles ordonne un supplément d'informations. Sa mère espère qu'Alexis sortira bientôt de la prison de Bois d'Arcy. Michel Marie, l'un de nos invités, est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. J'ai envie de dire, tout se complique et tout s'en mêle. C'est une salade russe, pour faire un mauvais jeu de mots. Il y a notamment ces morts qui s'accumulent, celle de Eugène Polévoy, celle de son frère. Et est-ce que tout, finalement, ramène à ce père de famille, Eugène Polévoy, à cette personnalité pour le moins trouble ?
À mon avis, il y a deux choses. Il y a Eugène Polévoy et ses affaires et ses ennuis que vous venez de nous raconter, de nous dire. Dans un dossier comme celui-là, en fait, on y trouve un peu tout ce qu'on a envie d'y trouver. La justice française, la police judiciaire de Versailles, a tranché en disant il y a deux affaires en une, en réalité. Alexis Polévoy a tué son père et tous les gens qui étaient présents dans cette maison, sauf sa petite sœur Nathalie, cette nuit-là. Par ailleurs, parallèlement, Eugène, pris dans des affaires complexes sur lesquelles personne n'a enquêté en réalité, a été la cible d'un tir à Moscou, se sentait menacé, avait pris même un garde du corps qui l'accompagnait partout. Ça. Il avait des armes partout, je crois qu'on a retrouvé cachées sous les fauteuils.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez troublant quand même.
C'est
une série de coïncidences. Parfois, ça peut relancer des enquêtes. Et d'ailleurs, à cette époque-là, l'enquête est relancée. Je vais poser la même question à Maître Olivier Combes, qui est l'un des avocats d'Alexis Polévoy. Est-ce que Eugène Polévoy, est-ce qu'on peut penser qu'il était la cible?
Mais on peut tout à fait penser qu'il était la cible. C'est pour ça que la théorie de l'homme en noir, qui au début paraissait incroyable et qui a été totalement rejetée par la justice française dès le début, puisqu'en réalité, il était quand même beaucoup plus simple d'expliquer aux uns et aux autres que c'était l'œuvre d'un gamin qui avait, pardonnez-moi un peu, pété des plombs, alors qu'en réalité, on sait très bien que les expertises vont nous démontrer qu'il ne souffrait d'aucune pathologie mentale. Et la réalité, c'est qu'on va vite se rendre compte que le père avait été menacé. En tout état de cause, il craignait pour sa vie. Et d'ailleurs, la présence de ce couple d'amis n'est pas anodine, puisque le dénommé, je crois qu'il s'appelait Slava, était en fait son garde du corps. Donc ça, on l'a compris aussi après, c'était un ex du KGB, un ancien parachutiste. Et il était là, il était dans la maison, probablement pour assurer la sécurité de Eugène Polévoy.
La juge d'instruction ne va jamais recevoir le fameux rapport du procureur général qui aurait pu bouleverser l'enquête. Alexis va rester en prison. 3 ans après son incarcération, il va comparaître devant une cour d'assises. Ce mercredi 4 mars 1998, Alexis Polévoy se présente devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines. Il avait 16 ans et demi quand il s'est retrouvé aux premières loges du massacre. Il va bientôt fêter ses 20 ans. Il a perdu en prison son visage poupin, celui que sa mère surnomme l'ourson, apparaît comme un jeune homme aminci et musclé. En détention, il n'a jamais fait parler de lui. Plongé dans ses livres pour passer son bac et s'inscrire à un DEUG de sciences éco, et faisant chaque soir sa prière. Procès à huis clos, Alexis étant mineur au moment des faits, alors qu'il réclamait, tout comme ses avocats, Maître Leclerc, Bourdon et Combes, des audiences publiques. Curieux procès prévu pour durer 10 jours et qui se déroule à l'abri des regards. 3 premiers jours consacrés à l'étude de la personnalité d'Alexis, tiraillé depuis l'âge de 10 ans entre des parents divorcés, entre France et Russie. 30 témoins triés sur le volet défilent à la barre. Beaucoup décrivent un garçon calme, attachant. Tellement maladroit qu'il était incapable de tenir un verre d'eau sans le renverser, répète sa mère Raïssa. On se demande comment il a pu faire feu sans trembler et tuer avec une telle précision. La balistique, imprécise et bâclée selon la défense, n'apporte pas de réponse sur ce point. Mais elle reste ancrée sur une certitude, il n'y a pas eu plusieurs tireurs. Cité à comparaître, Béa, l'escort girl qu'Alexis avait entraînée dans une chambre d'hôtel la nuit du massacre, décrit un adolescent aux aguets, un client qui posait des questions étranges. Que risque en France un enfant qui a tué ses parents? Ou encore, quel est le numéro à composer pour prévenir la police? Béa avait trouvé Alexis inquiétant, un témoignage sur lequel s'appuie l'accusation. L'avocate générale s'attache ainsi à démontrer point pour point la thèse de l'homme en noir ou du commando. Pourquoi de mystérieux assassins seraient-ils venus les mains vides et auraient utilisé les armes se trouvant dans la maison de Louvsienne? La piste de la mafia russe sera balayée d'un revers de manche. La cour avait d'emblée précisé qu'elle ne s'attarderait pas sur ce point. 18 à 20 ans requis contre le jeune russe. Le 10 mars, Alexis est finalement condamné à 8 ans de prison, verdict entre deux eaux, une peine trop clémente pour un massacre prémédité, trop lourde si l'accusé est innocent. Michel Marie, on vous retrouve dans cette heure du crime et vous êtes dans le studio de l'heure du crime, grand reporter au Nouveau Détective. Vous avez traité cette affaire à l'époque. J'ai envie de dire que même avant ce procès, on a l'impression que les jeux sont faits pour Alexis. Les accusations sont trop lourdes.
Alors oui, les jeux sont faits, effectivement. La police comme la justice n'a pas voulu s'encombrer de la piste russe. Ils avaient pas mal d'éléments. D'abord, il y avait les aveux d'Alexis, les empreintes digitales sur les 3 armes.
Que les siennes, hein, on est d'accord.
Que les siennes et celles de son père, puisque c'était les armes de son père. Il y avait un mobile, il l'avait expliqué, et ça collait avec d'autres témoignages, et qu'il était humilié, battu, frappé, rabaissé, que son père avait pris des mesures draconiennes à son endroit, lui interdisant de voir sa petite amie, lui coupe les vivres, les clés du studio dont il disposait pour faire ses études, etc. etc. Et surtout, il lui interdisait de voir sa petite amie, et c'est ça, c'est la veille des faits.
Ça a été l'explosion de la cocotte minute, finalement.
La justice considère, et la police aussi d'ailleurs, considère que ça a été l'explosion. Et puis, je rajouterais que la justice aime les crimes élucidés. Et la piste russe, c'était très compliqué.
Et trop fantaisiste, sûrement.
Sans doute trop fantaisiste. Et dernier point, quand même, c'est que les armes utilisées par le ou les tueurs, si on veut aller sur ce chemin, étaient les armes de la victime. Ça veut dire que le tueur serait venu sans armes.
Et ce serait servi,
finalement, sur place. Ce qui est totalement impossible.
Ce qui est un scénario criminel, effectivement, qui est compliqué. Jean-Pierre Bouchard, vous êtes en ligne, psychologue dans l'heure du crime. On vient d'entendre Michel Marie. Alexis est condamné pour avoir tué 6 personnes. Alors, tuer son père, je suis d'accord, mais pourquoi tuer tout le monde ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Hein, c'est-à-dire que les gens ont pu s'interposer, l'empêcher de commettre le crime, ou tout simplement, il y avait une ambiance qui pouvait juger être délétère à son encontre dans cet entourage qui aurait pu faire, à ses yeux, une espèce de coalition d'adultes contre lui. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut voir. Mais encore une fois, dans cette affaire, je suis très mal à l'aise parce que, d'une part, je la connais pas de l'intérieur, j'ai pas vu
le
jeune homme à l'époque.
Votre projet.
Et surtout, on est au carrefour, on le comprend bien, de deux hypothèses qui comporte des éléments de crédibilité. Alors évidemment, la première, celle qui a été retenue par la justice, c'est la plus facile et la plus classique, celle qu'on rencontre le plus couramment, c'est-à-dire un jeune homme qui subit des comportements objectivement négatifs à son encontre ou qu'il pense être très négatif et répété à son encontre et qui se venge. Et puis, cette autre hypothèse moins courante qu'il déclare plus tard avec l'histoire de la mafia, et dont on découvre que finalement il y a des éléments extrêmement particuliers qui lui donnent une certaine crédibilité aussi.
Tout à fait. Michel Marais, juste un mot, vite.
Juste un mot, la question que vous posez, on a la réponse, elle est dans le dossier. Les policiers lui ont posé la question de savoir pourquoi il avait tué les autres, et il avait répondu qu'ils étaient témoins et qu'ils n'étaient pas intervenus quand il était martyrisé, humilié, et qu'ils avaient même rigolé de le voir rabaissé par son père. Et c'est la raison pour laquelle il ne les a pas épargnés.
C'est le déclencheur, évidemment. Hein. C'est, d'après la justice, en tout cas, et c'est ce qui sera dit à ce procès à huis clos, on le répète, où le public n'était évidemment pas admis. Alexis retourne en prison pour purger sa peine. Il ne va rien changer à son attitude de détenu modèle, résigné à l'idée de passer quelques années en milieu carcéral, tout en faisant savoir qu'un retour en Russie signerait son arrêt de mort. Le 5 octobre 1998, 7 mois après sa condamnation, Alexis Polevoy est au palais de justice de Versailles pour contester l'arrêt d'expulsion qui sera pris dès lors qu'un jour il pourra sortir de prison. Alexis fait savoir qu'un retour forcé en Russie, son pays natal, signerait son arrêt de mort. Présente à cette audience, sa mère, Raïssa, qui a toujours défendu son fils et le considère comme innocent, affirme qu'elle ne souhaite pas que celui-ci revienne auprès d'elle à Moscou. « Il y va de sa vie », dit-elle. Alexis affirme qu'il reste sous la menace de l'homme en noir. Il indique vivre dans la peur. Bien que la cour d'assises rejette cette thèse, le président du tribunal accède à cette demande. Le magistrat semble reconnaître que le cas Polevoy n'est pas des plus ordinaires. Il déclare ainsi « Pour horrible que puissent apparaître les crimes que vous avez commis, il est établi qu'ils sont liés à un contexte familial ». Les experts ne notent aucun risque de récidive chez l'intéressé. Quand il sera libéré, le jeune homme sera donc autorisé à rester en France. Emprisonné au centre de détention de Val-de-Reuil, en Normandie, Alexis respecte à la lettre les consignes de l'administration. Il est alors considéré comme un détenu qui ne présente aucune dangerosité. Au début de l'année 2000, il bénéficie de permissions régulières. Il peut alors retrouver son tuteur ainsi que des proches. Une amie russe s'est engagée à l'héberger dès que sa libération sera effective. 8 juillet 2000, Alexis, 21 ans, une mèche brune descendant sur son front, les épaules larges, quitte la prison. 4 de ses proches sont sur le parking et l'embrassent. Il allume une cigarette et dit simplement « tout va bien ». L'acteur principal de la tuerie de Louvciennes, soucieux de commencer vraiment une nouvelle vie, n'a plus jamais fait parler de lui. Maître Olivier Combes, l'un des avocats d'Alexis Polevoy, je voudrais qu'on revienne juste une petite seconde sur ce verdict. Que faut-il en penser ? Quelle est la leçon finalement de ce verdict selon vous, maître ?
Il est impassible. Il accepte la décision qui a été rendue. Il va finir sa peine pendant encore 2 ans, puisqu'il va sortir au cours de l'année 2000. C'est une décision quand même avec beaucoup d'incompréhension. C'est soit beaucoup pour un innocent, soit très peu pour un coupable.
Alors, très peu pour un coupable. Qu'est-ce qui devient aujourd'hui votre client, Alexis Maître Combe ?
Après sa sortie, je l'ai revu un peu, mais je ne l'ai pas revu depuis de nombreuses années. Il avait quelques projets, il avait voilà, il essaie de se reconstruire, mais je ne sais pas si ça aboutit.
Selon vous, l'ombre de la mafia russe plane toujours sur cette affaire, même si la justice pense le contraire ?
Absolument. Ce qui a été assez, je trouve, assez intéressant dans cette affaire, c'est que d'une hypothèse totalement loufoque au départ, on arrive à la fin avec suffisamment d'éléments pour qu'elle ait vraiment du corps, et que l'argument selon lequel ce puisse être quelqu'un d'autre, et notamment la mafia russe qui a exécuté Eugène, plus son frère, plus les autres membres, plus peut-être même encore un autre que je voudrais ajouter à la liste, parce qu'il y avait un des associés ou une personne avec laquelle travaillait Eugène Polvoy qui s'appelait Chaitanov, qui était président d'une société Rigel au Turkménistan, et qui était de la société qui s'intéressait au pétrole, qui va mourir en juillet 1995, c'est-à-dire peu de temps après Eugène, dans les 3-4 mois, et il va mourir, on va le retrouver la tête dans sa tasse de thé, donc l'après-midi dans sa tasse de thé. Voilà, tête dans sa tasse de thé. Donc, voilà, je ne sais pas.
Jean-Pierre Bouchard, un mot très court, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Psychologue, juste, il n'y a pas de pathologie particulière qui a été décelée chez le jeune Alexis Polevoy. C'est quand même assez rare, non, à ce niveau de...
C'est quelque chose de courant d'en constater. C'est-à-dire que les gens délirent. Là, il a été constaté qu'il n'était pas délirant, donc ce qui donne une certaine crédibilité à son propos.
C'est ça, donc on peut le croire quand il fait...
Et d'ailleurs, il en a fait la preuve, puisqu'après, en prison, il semblerait qu'il n'ait pas manifesté d'inadaptation liée à des troubles mentaux. Et d'après ce qui vient d'être dit, à la sortie non plus.
Non, il a un comportement tout à fait banal, j'ai envie de dire, passe-partout en prison. Michel-Marie, on va terminer cette émission avec vous. Ça met de l'eau à votre moulin et au moulin des enquêteurs, si je puis dire. C'est que, effectivement, les premiers aveux sont ceux qui comptent.
Les premiers aveux sont ceux qui comptent, et c'est en tout cas les premiers aveux ont compté dans la décision de la cour d'assises et dans la prise de position de cette cour d'assises. Moi, je trouve que c'est une décision intelligente. 18 ans demandés, c'était pour un gamin de 20 ans, quel que soit son crime ou quels que soient ses crimes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on lui...
Six victimes, Michel, quand même.
Oui, je sais bien. Mais on ne paye pas par une peine de prison la mort de la quantité. Enfin, je veux dire,
le
ratio, c'est pas comme ça que ça marche. Là, la justice a dit, c'est vous, mais en même temps, on vous comprend.
Juste un dernier mot, il y a un goût d'inachevé, hein, quand même, dans cette histoire.
Oui, évidemment, parce que ça aurait été judicieux que la justice se penche un peu sur le dossier russe et trouve ou trouve pas, mais en tout cas se penche dessus.
Merci beaucoup Michel-Marie, Jean-Pierre Bouchard et Maître Combe d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Cindy Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.